Azione.
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
On n'a vraiment pas de quoi rire, Marco.
C'est vraiment un navet, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifiant.
Cinéma. Cinéma.
Vous trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai tellement pitié du malheureux monstre.
Madame, je n'écris rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit dans une époque formidable, Michel.
Ah bah absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, où?
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, vous écoutez le comptoir du cinéma. Votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor, et je vous dis ça non sans émotion puisque c'est la dernière fois que je prononce ces mots au micro du studio de Transistor où je me trouve en compagnie d'Aubry, de Corentin, de Clarisse. Et la dernière fois, effectivement, puisque cet épisode 75 que vous avez lancé sur transistor.fr ou sur l'une de vos plateformes de podcast, eh bien, c'est le dernier numéro de la saison 3 avant, et nous vous l'annonçons déjà, une suite de hors-série à paraître cet été qui chroniqueront le Festival de Cannes où on se rend de nouveau avec Aubry. Et avec Claire aussi, qui n'est pas là ce soir, mais qui donc sera là, au mai, en juin et en juillet, quand les épisodes sortiront. Ce soir donc au studio, ce sont nos derniers verres au comptoir, avant, je l'espère, son retour pour une saison 4 à la rentrée, de laquelle, bon, moi je ne serai plus, mais j'aurai laissé vos très chers critiques prendre la relève et le relais. D'ailleurs, ils et elles sont là, prêts et prêtes à prendre le micro pour ce numéro 75, un peu festif, qui prendra une forme originale de carte blanche, où chacun, chacune s'exprime successivement sur un sujet de son choix, parlant de cinéma qu'on aime, de cinéma donc qu'on attend, je le disais Aubry, de nos expériences en salle de cinéma. Mais pour l'heure, Corentin, c'était toi qui voulais prendre le micro et nous parler pour ce dernier épisode d'un cinéaste cher à ton cœur, Wang Bing.
Tout à fait, je suis enfin la parole, je suis enfin libre de pouvoir dire ce que je veux après toute une saison amusée. Mais bon, les auditeurs ne seront vraiment pas du tout étonnés. J'avais envie de parler de Wang Bing, j'avais envie de parler de son premier film, À l'ouest des rails. Donc, faudrait peut-être mettre un petit peu de contexte, voilà. Le Wang Bing, c'est qui? C'est un cinéaste chinois issu de l'Institut des Beaux-Arts. Donc, il a une formation de photographe là-bas et de l'Académie de cinéma de Pékin également, avec une formation de chef opérateur. Et il réalise donc à partir de 1999 et jusqu'en 2002 un premier film documentaire qui retrace le démantèlement progressif d'un gigantesque complexe industriel à Shenyang, donc c'est-à-dire au nord-est de la Chine. Ce film, c'est un film très important, notamment pour les cahiers du cinéma, puisque il me semble qu'il se trouve dans leur top 10 du 21e siècle, pardon. C'est À l'ouest des rails. Ce grand complexe destiné à l'industrie lourde et donc qui a été repris, il me semble, des Japonais après la Seconde Guerre mondiale, voilà, il se situe dans la province du Liaoning. Donc ce sont des fonderies de plomb et de cuivre, créées, il me semble, par les Japonais. Et élargi ensuite par les soviétiques dans les années 50, avant d'atteindre une certaine apogée dans les années 80. Et à partir des années 90, la conversion progressive des entreprises publiques en sociétés par action, avec donc l'ouverture à une économie de marché, n'assure plus aux travailleurs des revenus réguliers et des conditions de vie stables. Et la province du Liaoning est une de ces provinces les plus impactées par le tournant néolibéral. Et les travailleurs en sont les victimes directes, puisque 70% des travailleurs urbains de la région de Shenyang étaient employés dans ces industries publiques. Wang Bing, il a pu observer ces transformations pendant ses études à l'Institut donc, des Beaux-Arts donc, à Shenyang, dans la province, entre 92 et 95 notamment, et il envisage à partir de là un premier travail documentaire qui s'attache à montrer à la fois les transformations de cet environnement industriel et les conditions de vie des individus qui l'habitent. C'est un cinéaste qui élabore de nouvelles pratiques cinématographiques indépendantes, en réaction notamment à l'institution et à ses conventions. Comme je l'ai dit, il a eu une formation de chef opérateur à Pékin, et il a en effet travaillé auprès dans l'institution, au sein d'un studio de cinéma d'État d'abord, mais il en a été extrêmement déçu. Donc, il a été chef opérateur, enfin, non pas chef opérateur, mais opérateur en tout cas, d'un film documentaire de propagande consacré à Zhou Enlai. Puis il a aussi été sur un film de fiction en 99 et il a absolument détesté. Notons d'ailleurs qu'au fil de ces tournages, c'est assez étonnant, mais sa présence, en fait, elle est tolérée par les autorités, mais ces tournages restent quand même clandestins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas distribués en Chine, et d'ailleurs, son public est quasiment exclusivement occidental. Lui-même, il l'explique, hein, je cite, « D'une part, peu de spectateurs voient mes films, car le cinéma grand public occupe tout l'espace, et d'autre part, peu de spectateurs connaissent leur existence, car ils ne sont disponibles que sous forme de DVD pirates. On peut dire qu'en Chine, mon cinéma n'existe pas, du moins en apparence. » Le cinéaste, lui, il s'initie aux pratiques numériques dès la fin des années 90. Il filme donc voilà, son premier documentaire à l'aide d'une caméra mini DV de chez Panasonic, aucune part, qui est à la fois l'option la plus économique pour l'époque et qui offre en fait une très très grande mobilité puisqu'il recueille plus de quand même 300 heures de captation, ce qui est assez inenvisageable à son échelle sans cette technologie. Et sa caméra en tant qu'équipement amateur reste une caméra basse résolution mais qui lui laisse la possibilité de tourner sans éclairage additionnel, donc très très bonne en basse lumière et qui lui garantit donc aussi une autonomie, une indépendance quasi totale puisqu'il n'a pas besoin d'attendre de financement préalable. En fait, il peut travailler son projet documentaire, voire en travailler plusieurs à la fois, mais aucun. D'ailleurs, en fait, il a emprunté, on va dire, la première caméra DV au studio d'État dans lequel il travaillait, emprunté entre gros guillemets. Il tourne à l'ouest des rails seul pendant 2 ans sur un mode qu'il veut non interventionniste, c'est-à-dire qu'il s'agit pour lui de donner la parole, ou le temps plutôt, d'abord à celles et ceux qu'il filme, et donc d'investir le cadre, que ce soit, comme je disais, par la parole ou dans une plus grande mesure par la persistance de leur présence, de leur corps, dans un environnement qui lui est en décomposition industrielle, sociale, existentielle. Et ce rapport à une temporalité longue, que ce soit à travers le tournage ou dans la durée des plans, est important dans le sens où ce sont les corps en mouvement et les gestes simples qui intéressent en premier lieu Wang Bing. Il n'est pas anthropologue, hein, il ne se revendique pas comme tel, mais sa méthode d'immersion peut rappeler à bien des égards celle d'un anthropologue comme Malinowski. C'est-à-dire qu'il y a une phase préparatoire de vie avec celles et ceux qu'il filme, sans encore appuyer sur REC, sans même en fait de présence effective de caméra. Et je précise que la possibilité de filmer sur un temps long ne s'accompagne pas d'une prétention de tout saisir de la part du cinéaste. Il a conscience qu'il ne peut pas saisir la totalité d'un réel qui se donnerait donc à lui, qui se présenterait à lui comme un objet pur. Mais ce que laisse le numérique au documentaire, c'est l'idée d'une méthode qui n'est plus ou peu conditionnée par l'outillage technique et qui réfléchit sa définition, son positionnement, sa démarche éthique, donc en lien avec les possibilités offertes par l'appareillage technique. Il met la technique au service de son projet documentaire, c'est-à-dire tout simplement filmer la vie dans une sorte de flux ininterrompu qui rendrait compte du temps tel qu'il est vécu par les individus filmés. Ces films, ils prennent place dans ce qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler la grande histoire. Mais ils suivent d'abord des individus au sein d'un collectif qui subissent les effets matériels des transformations économiques de cette grande histoire. Je cite encore Wang Bing en interview, il déclare « En ce qui me concerne, en matière d'histoire, les événements spectaculaires ne m'intéressent pas. Je préfère filmer les petites choses, ce sont les détails qui m'intéressent. » Et il est vrai, Wang Bing souhaite intervenir possible parmi les gens et donc par conséquent, il ne sollicite presque jamais en fait la parole. Il l'accueille, il la recueille. Et on a souvent trois, quatre figures qui se présentent, c'est-à-dire que soit la parole survient lorsqu'il capte des conversations auxquelles il est étranger, soit alors un individu s'adresse directement à lui sans sollicitation préalable parce que la caméra est présente, parce qu'il tourne un documentaire, parce qu'il est vu comme une entité filmante, ou alors, et c'est ce dernier cas qui est quand même le plus fréquent, la parole est bien souvent en fait absente. C'est paradoxalement dans ces moments-là, c'est-à-dire en refusant aussi l'intervention, donc qu'il prend le risque d'une parole absente, Et donc c'est à ce moment-là qu'il trahit sa présence en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus que lui et la caméra et les indices, c'est-à-dire les bruits de pas du moteur de la Mini DV, son souffle, les ombres qui contrastent, voilà, dans ces déambulations au sein des ateliers, des grands hangars désaffectés, dans ce grand silence sépulcral. Et je terminerai aussi peut-être par ceci. Alors je m'excuse auprès de vous, mais oui, je vais citer Deleuze au chapitre 2
il fallait bien qu'il intervienne en 75 épisodes, il est quand même pas beaucoup sorti.
Ah mais là il fallait quand même le faire intervenir, puisque au chapitre 2 de l'image mouvement, Deleuze il oppose deux conceptions du cadre, c'est-à-dire d'une part la saturation, donc un cadre qui contient un trop grand nombre d'éléments, donc qui déborderait, et la raréfaction, c'est-à-dire un cadre voilà, qui contient peu d'éléments, bon, c'est assez clair comme ça. Et le cadre de Wang Bing, eh bien, il est très, très souvent en courte focale, et il tend à la raréfaction. C'est-à-dire que les lieux imposants qu'il filme tendent à absorber toute présence humaine, et d'autant plus lorsque le cinéaste cherche à repousser les limites de l'espace. On pense par exemple au long travelling, donc d'ouverture et de clôture du film, donc d'ouverture de la première partie et de clôture de la dernière partie rail, où on a depuis la locomotive ces longs travelling qui finissent par se perdre dans une ligne de fuite infinie dessinée par les rails. Et pourtant il arrive aussi que l'espace soit saturé, c'est-à-dire que on a de nombreuses séquences d'intérieur où de toute façon les espaces de vie, et je pense à la deuxième partie qui s'intéresse véritablement aux jeunes du quartier des Allées Arc-en-Ciel, donc un quartier ouvrier mais qui est sur le point aussi d'être rasé puisque l'espace productif est en reconversion et qu'on n'a plus besoin de quartier ouvrier, voilà. Ces environnements-là de vie intérieure qui sont déjà petits sont souvent saturés de monde, que ce soit l'épicerie, voilà, que ce soit les maisons, ce sont des lieux exigus où se retrouvent les jeunes du quartier. Et donc par l'effet de montage entre ces deux types de lieux, en fait, on va dire, Wang Bing alterne à la fois entre des espaces où l'activité perdure et des espaces à l'état de ruine ou de vestige déjà. Et au fur et à mesure, le cadre finit en fait par se vider, voilà. Et la fermeture des usines d'Enrouille en est l'apogée, comme la démolition du quartier ouvrier dans Vestige, comme l'arrestation de ce personnage très caractérisé du vieux du dans Rail, dans la troisième partie. Donc tout tend à être désaturé, à la raréfaction dans son cadre, aussi par ces effets de montage-là. Wang Bing, c'est un cinéaste qui réfléchit donc aussi aux perspectives d'un cinéma beaucoup plus augmenté, expanded cinéma, hein, Luc Vanchéry, merci. Ce sont des perspectives qui semblent s'accorder plus aisément en fait à ces propositions qui s'avèrent en fait difficilement exploitables, hein, dans le champ commercial du fait de leur forme, de leur durée. On trouve par exemple, alors c'est pas un cas exceptionnel, L'homme sans nom, puisque le film en fait ne dure qu'une heure et demie, mais le film existe et a existé en fait plutôt, il existe toujours, mais il a existé en tant qu'exploitation, enfin dans son exploitation, non pas pour la salle de cinéma, mais il a été projeté, en fait commandé et projeté par une galerie, la galerie Chantal Croussel, en boucle pendant un mois. Mais donc l'exemple le plus frappant, je pense que ça reste peut-être Crudoil, qui est projeté donc au Gray Center for Art and je sais plus quoi. C'était quoi déjà? Gray Center de l'Université de Chicago, où en temps réel, ces 14 heures de travail, du travail ouvrier dans une exploitation pétrolifère du désert de Gobi, du lever voilà, au coucher du soleil. Et donc là, à ce moment-là, temps réel et temps cinématographique se confondent dans ce film. Et par ce refus radical d'élaguer les temps morts, Wang Bing conçoit une sorte de duplication de la journée du travail ouvrier comme une sorte d'expérience de la viscosité du temps. Et je terminerai ici sur cette perspective qui aussi peut interroger quant par exemple à la pertinence morale d'un tel projet et surtout à destination de quel public en fait de non pas vivre cette expérience mais accompagner peut-être ce temps de vie-là ou cette autre temporalité-là.
Merci beaucoup Corentin pour ce premier temps de l'émission où on a senti ta sincérité finalement à parler de ce cinéaste que tu apprécies et qu'on sait que tu apprécies ici. Parlons un peu d'expérience de la salle de cinéma, voilà, parce que mine de rien, le comptoir du cinéma c'est une émission d'actualité cinématographique, c'est très très rare, voire je pense que ça n'est jamais arrivé qu'on ait chroniqué des films en streaming, non pas par une espèce de snobisme d'ailleurs qui voudrait que les productions des plateformes soient... pas pour moi, en tout cas. Pour moi, les productions de plateforme peuvent être, en tout cas, tout à fait aussi honorables, voire plus hein, que certaines sorties sales. Moi, je pense à
exemple
Cocorico 2, qui devrait sortir sur plateforme.
Il m'a eu le bâtard.
Et oui. Non, écoutez, quel est vous, je sais pas, si vous deviez nous raconter une expérience de salle de cinéma, que ce soit une expérience mémorable pour toutes sortes de raisons, hein, que ce soit parce que c'était gênant, que ce soit parce que c'était marquant, par exemple, voilà, votre premier souvenir vraiment marquant de cinéma, de salle, qui vous a fait vous dire ah oui, ok, on peut faire ça au cinéma, ou bien tout à fait autre chose, je vous en prie, la parole est à vous.
Le premier souvenir, je ne saurais pas dire. Par contre, j'en ai un qui reste et qui restera pendant très longtemps. Et en plus, ça tombe bien, c'est un film qui a été chroniqué quand j'étais pas là. Une émission que vous pouvez retrouver tout en bas de la page comptoir du cinéma. Et qui d'ailleurs, si vous l'écoutez, vous verrez tout le côté balbutiant de l'émission, tant dans l'enregistrement que dans...
Bah, tu viens de dire que t'étais pas là, donc là je le prends très très mal, parce que tu insultes les
non,
copains.
C'était assez drôle à réécouter, parce que en fait il y a des gens qu'on entend très loin du micro, comme s'ils n'avaient pas de micro, enfin bref, c'est des petits aléas comme ça, et puis enfin surtout c'est plus court.
Maintenant on les entend saturés.
Non, mais surtout je crois qu'il y a 6 personnes qui parlent du film, enfin peut-être un peu moins, mais enfin... beaucoup plus que maintenant. Bref, trêve de suspense. En fait, je voulais parler du Garçon et le Héron, surtout parce que je crois pas avoir souvenir d'avoir déjà parlé de Miyazaki plus que ça à cette antenne. Et en fait, pour plein de raisons, à la fois parce que c'est pas qu'une séance, ça a été 3 séances qui ont beaucoup compté pour moi. Et aussi parce que, en fait, c'est tout bête, mais... à chaque fois que je discute avec des gens et que les gens me disent « Ah, mais tu fais des études de cinéma, ou tu parles de cinéma, ou tu kiffes le cinéma et tout », à chaque fois, les gens ils finissent par te demander « Mais c'est qui ton réalisateur préféré ou ta réalisatrice préférée ?» Et à chaque fois, je sèche, je suis là, je suis en mode « Bah putain, en vrai, il y en a plein, je saurais pas dire et tout ». Et en fait, à chaque fois que je prends vraiment la peine d'y réfléchir, et puis que je revois ces films, je me rends compte qu'en fait, Miyazaki, c'est juste une pure évidence. Voilà, tu vois, même le studio est d'accord avec moi. Et en fait, je crois que tout ça, ça peut se ramener à cette découverte du Garçon et le Héron. C'était il y a quoi ? 2 ans et demi, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, hein, c'était sorti à l'automne 2023. Voilà. Donc ça fera 3 ans.
Qui, pour plein de raisons, mais personnellement, était une période excessivement compliquée pour moi. Et il se trouve que je suis allé découvrir ce film-là au Grand Rex. Il n'y a pas de sponsor. D'ailleurs, c'est une salle un peu problématique pour plein de raisons, mais aussi très très chouette pour plein d'autres raisons. Mais bref, il se trouve que j'allais découvrir là-bas avec ma grande sœur le Garçon et le Héron en avant-première. Et en fait, j'ai été complètement soufflé par le film, mais à faire à tout point de vue, c'est-à-dire qu'en fait le film m'a pas juste emporté parce qu'il est beau, il m'a pas juste emporté parce que il est bien écrit ou pour ses sujets. En fait, c'est qu'il m'a emporté intimement pour le coup et de façon très très forte. Et en fait, quand je suis sorti de la salle, je savais pas quoi dire. Il y avait un mec de France Inter ou France Culture, je sais pas, qui traînait avec son micro, enfin qui récoltait des avis. Et en fait, j'ai pas su quoi lui répondre quand il m'a demandé. Et en fait, à ce moment-là, je crois que j'ai compris un peu l'évidence sur laquelle, moi en tout cas, je n'arrivais pas forcément à mettre des mots ou à regarder en face. c'est qu'en fait, oui, les films de Miyazaki, ce dernier qui est peut-être un peu plus passé sous les radars dans le sens où, bah, en fait, vu qu'il est sorti en dernier, il n'a pas ce côté culte qu'ont pu avoir les autres. En fait, c'est des objets qui resteront, en tout cas pour moi, mais je pense pour beaucoup de gens, pour la vie. Il y a tout dans ce film-là et beaucoup plus que ce qu'on a voulu en dire au premier abord. Alors oui, il y a des histoires de deuil, oui, il y a des histoires de réalisme, d'onirisme, d'imaginaire. Il y a tout plein d'images complètement dingues qui fourmillent dans ce film-là. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. C'est le film lui-même, en fait, qui est une profusion de... C'est même pas des thèmes, c'est vraiment juste des pures images, entre guillemets, qui parlent d'elles-mêmes. Et plus encore que ça, c'est dans l'enchaînement des images que ça m'avait frappé. C'est-à-dire que s'il y a bien un truc qui, pour moi, est propre à l'animation, c'est le fait de pouvoir... Enfin, d'avoir une image qui se métamorphose complètement sans jamais se couper. Et s'il y a bien un film récent, en tout cas, qui incarne ça, c'est le film de Miyazaki, où, en fait, on passe d'un décor à l'autre, d'un monde à l'autre, d'une situation à l'autre, d'un plan de réalité à un autre, sans jamais couper, jusqu'à ce que, dans les plus gros moments du film, en fait, ça en devient abstrait, c'est-à-dire qu'on se situe de nulle part. On est juste dans une situation de changement perpétuel pendant plusieurs minutes, et où à l'écran, on n'a que des images en mutation, des motifs mouvants, qui finissent en fait par disparaître au profit de leur propre métamorphose. Et ça, c'était assez phénoménal, surtout, en fait, replacé dans tout ce qui a pu être dit sur le film, pour le coup, sur les thèmes plus explicites qu'il peut porter. Et sur toutes ces questions de deuil, d'importance de l'imaginaire, de la mémoire, des deux dans le vécu et dans la dimension vécue du temps, en fait, c'est con, mais sans y mettre des mots aussi compliqués, ça frappe de façon évidente. Et ouais, je pense qu'en fait, c'est une des séances les plus fortes que j'ai vécues dans toute ma vie, et surtout récemment, du coup. Et du coup, ça fait que je suis allé revoir le film deux fois derrière, et j'avais ce besoin-là. Et je crois que, enfin, fou, sur, enfin, dans les, je sais pas, 10, 20, 30 dernières années, je trouve que c'est complètement dingue, et qu'entre guillemets, on est passé un peu à côté. Et je pense qu'on gagnerait à revoir ce film, à le revoir en salle aussi, surtout, même si, bon, c'est pas évident parce qu'il passe pas forcément en salle. Mais voilà, un récit d'expérience de salle de cinéma. Ouais, enfin, pour le dire précisément, quand toi-même tu fais face à un deuil très fort et que le lendemain ou le soir même tu vois un film comme ça, en fait, c'est une séance que tu oublieras jamais. Et ce qui est encore plus fort, c'est de se dire que c'est une séance que tu oublieras jamais, pas seulement du fait d'un contexte, mais vraiment du fait du film. Et ça, c'est fort.
Bah c'est beau ce que tu
dis
quand
même.
Ouais.
Tu vas nous faire pleurer là.
Mais je peux enchaîner mais avec une anecdote mais qui n'a rien à voir du coup. Et parce que moi au début on avait dit anecdote gênante.
Oui,
voilà,
c'est
pour
vrai,
mettre le contexte. C'est pas la première anecdote qui m'est venue quand on me parle d'expérience de cinéma. C'est la première anecdote qui me vient quand on me parle d'expérience gênante dans une salle de cinéma. Voilà, pour contextualiser. Ce n'est pas le souvenir avec lequel... voilà, qui me guide dans chacun de mes jours passés à étudier le 7e art. Bref, cette séance a lieu il y a quelques années. J'habite à Paris, j'habite à 25 minutes de la Cinémathèque, et j'étais encore curieuse à l'époque, j'y allais comme ça, pour découvrir plein de choses. Je suis allée à la rétrospective de Catherine Breillat. Ça devient encore mieux. Je vais voir un film qui s'appelle Sex is Comedy, et je passe un plutôt bon moment. Enfin... je peux voir ce qu'il y a de problématique, et en même temps, je me dis, ouais, mais elle a l'air cool, cette réalisatrice. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Je regarde un peu le petit prospectus et tout, là, de la rétrospective, et il faut savoir que mon daron venait me rendre visite le week-end, et que lui, il est toujours hyper intrigué de savoir ce que j'étudie, machin, les films et tout, enfin, il est hyper curieux, machin, toujours partant pour une séance de ciné et tout, enfin, vraiment, cœur sur lui et tout. Et moi, je me dis, je suis allée voir Sex is Comedy, mais bon, j'ai bien kiffé. Il y a d'autres films qui ont l'air cool, dont un qui s'appelle Anatomie de l'Enfer. Allons voir Anatomie de l'Enfer avec mon papounet.
On dirait vraiment le titre d'un mondo. Genre.
Anatomie de l'Enfer, qui est en fait un film pornographique. avec Rico Siffredi, du coup, acteur porno italiano et tout ça, quoi.
Qu'on connaît et qu'on salue.
Donc là, je suis. Mais moi, je n'en ai aucune idée à ce moment-là. Je pense que ça va être un film un peu de genre comme ça. Ouais, pardon, je sature, je parle un peu.
Non, non, t'inquiète, j'essaye de gérer autant que je peux.
Et du coup, on s'installe dans la salle. Vraiment, la salle est pleine et tout, un samedi soir, machin. Et moi, j'ai aucune idée de ce qu'on s'apprête à voir. Et ça commence fort, je crois que c'est des scènes de suicide, scènes de viol, tout en veux-tu en voilà. Au bout de 7 minutes, une femme crie dans la salle, elle s'évanouit. On rallume les lumières, on sort la femme de la salle. Et déjà, moi je suis pas très bien, parce qu'il y a mon daron à côté, on vient de voir deux scènes hyper intenses. Et je suis en mode, oh putain, je transpire un peu et tout. Mais c'est reparti, donc là il recommence le film depuis le début, on se retape les scènes de viol et de suicide. Et c'est reparti ensuite pour un truc. En fait, le film n'est pas si long que ça. Je crois qu'il dure 1h20, 1h30, mais il m'a semblé éternellement long. Et en fait, j'ai fait semblant de dormir ensuite sur la fin. Genre, je m'endormais comme ça, mais il y avait vraiment des scènes de sexe non simulées, quoi. Vraiment en gros plan, tous les angles que tu peux, avec tous les objets auxquels tu peux penser. Et une fameuse scène, mais ça c'était plus comique qu'autre chose, où la femme fait boire à Rocco. Rico ? Rocco. Elle fait boire le sang de ses règles dans un petit verre.
En fait, c'est comique.
Elle met un tampon imbibé de sang dans un verre d'eau comme une tisane qui s'infuserait.
J'avoue, j'aurais pas osé la comparer.
Et lui, il boit ça d'une traite et après, voilà. Donc il se passe plein de scènes comme ça, à la fois hyper gore, hyper glauque, hyper tout ce que tu veux, le sang, le sexe, la violence.
Bien changer le houlon.
Bref, et là j'ai blackout quoi, genre je mettais ma tête sur le côté, j'essayais d'éviter ça, et après on en a pas trop parlé avec mon père, enfin juste il était en mode, il était toujours content, enfin lui il était content, il était en mode non mais c'est bien le cinéma, l'expérience, donc c'était bien, et parfois je reparle de ces souvenirs, voilà, on en rigole, mais ça c'était vraiment une expérience de salle, parce que là t'es bloqué, enfin si on avait été chez nous, on aurait éteint, on aurait changé de film, mais là non. La salle oblige à être confrontée au réel.
Effectivement, mais les salles de cinéma ont ce truc un peu étrange quand même par moment, surtout dans les salles de patrimoine où tu peux te retrouver quand même avec des moments particuliers. Moi, j'ai quand même ce souvenir, je ne pensais pas raconter ça pour cette émission ni pour rien, mais puisque, allons-y, brisons la poésie que tu as créée, Aubry. Festival Lumière 2024, rétrospective Yasuzo Masumura. Donc cinéaste japonais connu pour notamment pour sa participation au sous-genre de l'héroguro, donc à la fois quelque chose d'un peu comique, un peu érotique et puis un peu violent aussi. Et donc on regarde Passion avec deux collègues de l'aspect cinéma, puisqu'on est censé aller voir ce film pour un de nos cours, et on entend derrière nous un bruit de ceinture dans la salle 27 de l'UGC Confluence, si vous voulez tout savoir. Et quelques secondes après ce bruit de ceinture qui se remet, mais vraiment la boucle métallique, hein, vous voyez, un homme, derrière nous, un rang derrière nous, se lève et descend et quitte la salle. Et il faut le savoir, donc, Masumura et Roguro, je vous le disais, on venait de voir deux femmes très belles, nues, en train de s'enlacer, juste de se faire un câlin. C'était trop pour ce monsieur, visiblement, qui donc a quitté la salle et a fait que le reste du film, qui est long pour le coup, hein, qui dure bien 1h50, qui est un mélo un peu lourdingue. Moi, j'aime pas partir. Enfin, si, je pense que le film est pas si mal en fait, mais j'ai pas aimé ma séance. Et notamment parce que toute la deuxième moitié du film, on avait cette espèce de présence in absentia, vu qu'il était parti, de ce pervers, rappelons-le par son nom, derrière nous. Et de même pour autre séance de Masumura, La Bête Aveugle, alors que là, qui est encore plus gênant, on va dire. J'avais à côté de moi un monsieur qui est une espèce de sosie de... entre Hubert Reeves et le Père Noël, et qui faisait des bruits, mais des bruits de bouche juste, et qui voilà, font toute la saveur de l'expérience en salle, que jamais on aura sur une télé ou sur du streaming, parce que comme t'as dit Clarisse, si quelqu'un nous gêne à notre côté, bah déjà c'est inquiétant que cette personne qui nous gêne soit dans notre maison. Et ensuite, on change de film et la personne ne détache pas sa ceinture. Voilà, ce sont mes conclusions à moi. Est-ce que toi, Corentin, tu as une expérience de ça à raconter, peut-être marquante, ou que tu voudrais partager pour ce dernier épisode du Compte Rendu du Cinéma?
Très honnêtement, je recherchais dans ma mémoire et j'ai pas des expériences de salles spicy ou enfin amusantes. J'en aurais pas tellement, peut-être que oui, quand je regardais L'Arbre au Papillon d'Or et que mon voisin a commencé à s'endormir au bout de 30 minutes et que du coup j'ai passé les 2h30 à écouter ses ronflements, c'était pas forcément l'expérience la plus agréable. Peut-être en séance de minuit à Cannes, lorsque j'avais vu le film de Robert Rodriguez et que c'était quel film déjà, il s'appelle comment le dernier film de Robert Rodriguez? Ah, c'était Hypnotique, ouais c'est ça, c'était Hypnotique. C'était un film, je me rappelle même plus l'intrigue, je sais juste qu'il y a eu une série de rebondissements c'était assez fou, parce que les gens en fait se foutaient un peu de la gueule de Robert Rodriguez, mais Robert Rodriguez se foutait de sa propre gueule, et à chaque rebondissement les gens criaient dans la salle et applaudissaient, et c'est arrivé au moins 8 fois. Il y a eu 8 rebondissements pendant les 5 dernières minutes du film, et du coup les gens étaient vraiment en mode waouh, et il faisait que crier comme ça, c'était assez cocasse. J'avais jamais vu ça. Alors le film était pas très bon, mais c'était un beau moment, dans le sens où c'était vraiment une expérience. On s'amusait en fait, on était beaucoup plus divertis par la réaction du public que par le film lui-même, qui était juste extrêmement mauvais, extrêmement kitsch, et dont on se demandait mais en fait comment est-ce qu'il avait fait pour être, enfin, parce que lui-même se prenait pas au sérieux en fait.
Si je peux rajouter un oui. souvenir de salle léger, et surtout qui appartient à l'histoire du comptoir du cinéma, c'est-à-dire un peu, enfin, pour vous donner les backstage de cette émission, il se trouve qu'assez souvent quand même on va voir les films ensemble, et il y a une fois l'année dernière où quand même c'est une séance qu'on n'oubliera pas de sitôt, ça devait être
je crois que je sais où ça va,
c'était pas au Comédia cette affaire. Je sais plus, enfin bref, avec Louis qui un soir me dit bah tiens, tu serais pas tenté d'aller voir un film japonais là,
c'était au Comédia,
qui s'appelle Le Joueur de Go. Et non seulement c'est mon émission préférée du comptoir, je pense, enfin en tout cas celle auquel j'ai participé, la plus drôle bien évidemment, mais surtout c'était quand même une séance mémorable, ou enfin un calvaire mémorable surtout avec Louis, et Dieu sait qu'on en a vécu des calvaires en salle tous les deux, mais celui-là était quand même particulièrement éprouvant, où une heure de rire, on cédait la place à une heure et quart d'épuisement mental, physique, de rire gras et de non-respect des autres spectateurs dans la salle. mais donc voilà, une séance marquante pour le coup du comptoir du cinéma.
Oui, c'est vrai. Et puis je me rappelle très bien de ce moment où je me suis retourné vers toi pour te dire qu'il restait une heure de film.
et que j'ai cru que c'était une blague.
Et que oui, et que tu t'es effondré d'une certaine façon. Non, écoute. Pour reparler séance, pour reparler émotion de séance, moi je réfléchissais en vous écoutant. C'était donc 2014, au cinéma en même temps, il y a à peu près à la même époque, et j'avais vu pas très très loin l'un de l'autre, et c'est ça qui m'a un peu convaincu en fait, que j'avais envie de faire du cinéma, d'étudier le cinéma en tout cas. C'est Le Grand Budapest Hotel, voilà, de Wes Anderson, qui donc en fait finalement reste un de mes réalisateurs préférés, même si ça fait longtemps que j'en ai pas vu beaucoup à la suite. J'ai suivi un peu toutes ses dernières sorties qui m'ont parfois déçu et parfois particulièrement enthousiasmé, notamment le dernier, que je trouve vraiment très 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 bon et qui je pense méritera d'être revu. Mais non, The Grand Budapest Hotel, c'est un film brillant, qui tient la route encore aujourd'hui, que j'ai revu plusieurs fois, rien que l'année dernière. Et effectivement, il y a eu cette espèce de révélation que, et de surprise en fait, je me rappelle très bien, en tant que spectateur, de me dire « Ah, donc c'est possible de faire des choses pareilles, donc c'est possible de faire une mise en scène ». Certes, qu'on peut retrouver artificiel, et c'est le but, hein, qu'on peut trouver vaine, c'est moins le but. Et moi, voilà, ça m'a marqué, ça m'a impressionné, et c'est resté avec moi autant que l'autre séance à laquelle j'étais allé. Je me rappelle, dans les deux cas, c'était un Pathé Bellecour avec ma mère. qui est Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne, qui est peut-être plus inattendu, peut-être dans des références personnelles intimes de cinéma, mais c'est un film, voilà, donc qui... Si le Wes Anderson m'a marqué sur la mise en scène, le film de Gallienne m'a marqué sur l'écriture, sur le jeu et sur le propos, en fait, aussi, tout simplement. Moi, voilà, c'est la première fois aussi qu'un film m'a semblé me parler assez directement, m'a ému aussi, pas tant pour l'histoire en elle-même que pour le lien que l'histoire pouvait avoir avec moi, et rien que pour ça, ces deux séances mises côte à côte, mises ensemble, forment une espèce de double programme que je dirais pas fondateur, parce que je crois pas en les mythes fondateurs personnels, mais en tout cas marquant pour moi.
Est-ce que je peux conclure? Moi, j'étais très content d'avoir fait ces deux ans quasiment d'émission avec vous. Et je voulais juste remercier Louis, en fait, d'avoir fait l'émission, d'avoir été là pour affronter tous ces films, des fois bons, des fois moins bons. Mais surtout d'avoir organisé tout ça, d'avoir gardé sa super bonne humeur, que comme tu l'as dit... il y a prolongation cette année avec le Festival de Cannes, mais voilà, je voulais quand même rendre à César ce qui est à César, te remercier, juste te féliciter pour vraiment tout le boulot abattu ces deux dernières années, même ces trois dernières années, même si bon, on n'était pas là, mais franchement bravo, merci de nous avoir fait participer à cette aventure là, et puis je te laisse conclure.
Je suis complètement d'accord avec Aubry. C'était une émission assez incroyable, autant en quantité qu'en qualité.
Vous dites le vrai. Merci beaucoup, Louis. C'est très solennel d'un coup comme ça. Mais si, c'est vrai, il faut le dire. Merci. Moi, je ne suis pas là depuis extrêmement longtemps, mais j'ai adoré...
Sans ta présence quand même, t'inquiète. Hein.
Oui, peut-être qu'en pardon, je me fais déjà attaquer par le futur patron. Louis, tu es souverain, Louis.
Merci.
Tu peux être fier de toi, vraiment. Ouais, et merci beaucoup.
C'est quand même fou d'avoir fait une émission de ces grandes ampleurs et tout. Enfin bref.
Vous êtes allé à Cannes quand même l'année dernière. Enfin, même si tu étais pas.
Au-delà de ça, genre la qualité du truc, incroyable.
Merci beaucoup. Ça m'émeut.
Le son te retiendra, en fait. Louis. Hein. Le son te retiendra. En général, le son radiophonique, le monde du son te retiendra.
J'espère avoir laissé une marque au-delà de la saturation dans le monde du son. Non, merci beaucoup. Je suis tout ému parce que c'est la dernière fois que je vais prononcer tous ces mots-là de fin d'émission dans ce studio, dans cette saison 3, au terme de 3 fois 25 épisodes quand même, c'est pas rien. Merci à vous, à vous trois et à toutes celles et tous ceux qui sont venus chroniquer des films, débattre de films à cette émission. Je vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. Donc, elles savent qui ils et elles sont et que je les remercie sincèrement d'avoir pris ce temps aussi. Moi, j'ai adoré, évidemment, être là tous les lundis soirs et enregistrer, préparer, monter, voir les films. C'était un bonheur. Je vous remercie donc le plus sincèrement du monde pour ces quelques années passées ensemble, mine de rien. Et évidemment, un grand merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont écoutés, partagés, téléchargés, streamés, podcasté de toutes les façons. Enfin, le concert du cinéma, c'est plus de 15 000 téléchargements quand même, il faut le dire. C'est écouter ça, on a des viviers réels d'auditeurs et d'auditrices en France, bien sûr, mais aussi ailleurs, à Ashburn, aux États-Unis. Voilà, je ne sais pas qui tu es, auditeur ou auditrice qui écoute depuis le début, mais je te vois dans les statistiques. Et puis voilà, merci beaucoup. Écoutez les émissions qui vont sortir à Cannes et écoutez la saison 4 qui, j'espère, aura lieu dès septembre ou après. Écoutez le comptoir du cinéma, réécoutez les vieilles émissions passées. Écoutez tous ces podcasts que vous pouvez retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts. Merci donc à toutes et à tous pour ce nouveau et dernier numéro du comptoir du cinéma, saison 3. Merci une dernière fois à vous, auditeurs et auditrices. Bon voilà, on se retrouve dans quelques semaines pour nos épisodes cannois. Je le souhaite en septembre pour une prochaine saison. Branchez-vous Transistor donc, ne manquez rien de tout cela qui sera comme d'habitude disponible sur transistor.fr. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous et si le cœur vous en dit de venir à la rentrée, surtout, n'hésitez pas. C'était Louis Rubellin pour la saison 3 du comptoir sur Transistor. Bonne soirée, bonne journée, bonnes vacances à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma, vive le comptoir du cinéma et vive Transistor. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, pour cette première émission, on parle d'Anatomie d'une chute avec vos critiques Chirine, Antoine et Lucie. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.